RFI, 20h à Paris, 19h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir. Trois otages israéliens ont été libérés ce samedi par le Hamas contre 183 prisonniers palestiniens. Les deux camps s'accusent mutuellement de mauvais traitements envers les otages et les prisonniers. À suivre la correspondance de Michel Paul à Jérusalem. Les autorités ukrainiennes se préparent à rencontrer les équipes du nouveau président américain. Volodymyr Zelensky ne veut pas que les discussions sur l'Ukraine se fassent sans l'Ukraine, nous dira Anastasia Becchio. À moins de deux jours de l'ouverture du sommet de l'IA à Paris, nous ferons le point. La France est-elle à la traîne? Et puis, opération Tonnerre, une opération de police internationale contre le trafic d'espèces sauvages. Plus de 20 000 animaux vivants ont été saisis et 365 suspects arrêtés. Et on commence par du rugby à Twickenham, deuxième journée du tournoi Destination Angleterre-France. Et Thomas de Saint-Léger, bonsoir.
Bonsoir.
Ce sont les Anglais qui l'ont emporté 26-25, une défaite cruelle pour les Bleus.
Mais les Anglais sont passés devant à 3 petites secondes de la fin du match. C'est la répétition du scénario de l'an dernier, dans le mauvais sens cette fois pour des Bleus beaucoup trop maladroits qui se sont sabordés. Les regrets portent surtout sur la première mi-temps, largement à l'avantage des joueurs de Fabien Galtier, est complètement gâché par un nombre hallucinant de fautes de main. Il y en aura 15 en tout dans cette rencontre au passif des tricolores. Thomas Ramos n'a pas non plus été très heureux dans ses tentatives au pied. Résultat, après 30 minutes de jeu, alors que les Anglais n'avaient pas mis un pied dans le camp français, le score était toujours 2-0-0. C'est rarissime en rugby et ça a redonné confiance aux 15 de la Rose qui, porté par son public, par la tournure un peu irrationnelle des événements, a fait basculer ce match. Les Anglais lavent l'affront de leur défaite 53-10 il y a deux ans. Ils se replacent à la hauteur des Bleus au classement du tournoi. Les Bleus qui devront vite se ressaisir. Prochain match dans un mois en Irlande sur les terres du redoutable 15 du trèfle.
C'est noté. Merci Thomas de Saint-Léger. De son côté, le Pays de Galles a concédé une 14e défaite de suite face à l'Italie au Stade Olympique de Rome, 22-15. À suivre demain, l'Écosse reçoit l'Irlande à 14h, temps universel. Ce samedi, trois otages israéliens ont été libérés par le Hamas contre 183 prisonniers palestiniens. Des prisonniers accueillis par une foule en liesse à Ramallah en Cisjordanie, comme à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Place des otages à Tel Aviv, on a célébré aussi la libération des trois otages, mais leurs familles, comme les dirigeants israéliens, dénoncent leur état de santé. À Jérusalem, Michel Paul.
En Israël, c'est la sidération après la libération des trois otages, amaigris et quasiment squelettiques après 491 jours de captivité. Nous ne pouvons pas accepter ces images bouleversantes que nous avons vues ce matin, affirme le premier ministre israélien Netanyahou, qui se trouve toujours à Washington. Pour le président israélien Isaac Herzog, c'est à cela que ressemblent des crimes contre l'humanité. Michal, la belle-mère de l'ex-otage Ohad Ben-Ami, est effondrée après avoir vu son gendre à la télévision.
Il a l'air vraiment terrible. Aujourd'hui, il est âgé de 56 ans et on dirait qu'il a 10 ans de plus. C'est triste de le voir comme ça. Et je peux que dire, il faut les libérer tous, jusqu'au dernier otage.
Les médias en Israël n'ont d'ailleurs pas diffusé la bande-son de la cérémonie mise en scène à Deir el-Balah en raison de ce qui a été qualifié d'humiliation des otages de la part du Hamas. C'est maintenant le tour de 183 détenus palestiniens de recouvrer la liberté. 18 d'entre eux sont des condamnés à des peines de prison à perpétuité. 111 sont des Gazaouis capturés par Israël depuis les événements du 7 octobre. Élément important, l'armée israélienne doit également se retirer totalement aujourd'hui du corridor de Netzarim qui sépare le nord du sud de la bande de Gaza. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
De son côté, le Hamas a condamné ce qu'il a qualifié de meurtre à petit feu des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes après l'hospitalisation de 7 des prisonniers qui viennent d'être libérés. À noter aussi que ce soir, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé l'envoi d'une délégation à Doha au Qatar pour des négociations sur la suite de la trêve. Dans l'est de l'Ukraine, sur le front du Donbass, les troupes russes continuent de progresser. Pendant ce temps, les autorités ukrainiennes se préparent à rencontrer les équipes de Donald Trump prochainement. De son côté, le président américain affirme qu'il rencontrerait probablement Volodymyr Zelensky la semaine prochaine. Bref, les préparatifs s'accélèrent. Anastasia Becchio.
Volodymyr Zelensky tient à rencontrer Donald Trump en personne avant qu'il ne voie Vladimir Poutine. Son objectif, éviter que les discussions sur l'Ukraine ne se fassent sans l'Ukraine. Ses équipes sont en contact avec les conseillers de la Maison-Blanche et en particulier avec Keith Kellogg, l'envoyé spécial de Donald Trump pour la paix en Ukraine, attendu à Kiev prochainement. En début de semaine, le chef de l'État américain a réclamé que l'Ukraine fournisse aux États-Unis des terres rares et autres métaux précieux pour financer le soutien militaire américain. Volodymyr Zelensky n'y est pas opposé, d'autant qu'une telle proposition figurait dans son plan de victoire présenté en octobre dernier. L'Ukraine est ouverte aux investissements des entreprises américaines, explique-t-il dans un entretien à l'agence Reuters. Les Américains nous aident le plus et ils devraient avoir la priorité et ils l'auront, annonce Volodymyr Zelensky, qui prévient qu'il ne compte pas brader ses minerais, mais compte en échange obtenir des garanties de sécurité. Selon le président ukrainien cité par l'agence, moins de 20% des ressources minérales de l'Ukraine et environ la moitié de ses gisements de terres rares se trouve dans des zones occupées par l'armée russe. Le pays possède aussi les plus grandes réserves d'uranium et de titane d'Europe.
RFI, 20h06 à Paris. Paris, où dans deux jours s'ouvre le sommet de l'IA et les annonces se multiplient. Dernière en date, la banque publique BPI France indique qu'elle va investir 10 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle d'ici 2029 pour soutenir le développement de cette technologie et aussi son adoption par les entreprises. Face à des États-Unis qui annoncent 500 milliards de dollars d'investissement avec le projet Stargate, et alors que les IA chinoises comme DeepSeek déferlent sur le monde, la France veut montrer qu'elle n'est pas la traîne. Alexis Bédu.
Il exhorte l'Europe à ne pas prendre de retard. Sam Altman, patron d'OpenAI, entreprise américaine numéro 1 mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle, appelle à un Stargate européen. Dans l'Hexagone, plusieurs études montrent que les Français accusent un certain retard sur leurs voisins dans la maîtrise de l'IA. Mais côté entreprise, ça n'est pas le cas, insiste Charles Gorintin, cofondateur de la start-up d'assurance santé Alan.
Il y a des très très belles entreprises françaises qui sont en train de truster complètement les marchés. Je pense à une entreprise comme Photoroom qui est la référence pour traiter des images. C'est vraiment les leaders mondiaux. C'est extrêmement actif en France. Je pense à Poolside qui s'est installé en France alors que les fondateurs étaient américains. Il y a quelque chose qui se passe à Paris et symboliquement ça se représente aussi avec le sommet IA.
Un sommet vitrine de l'IA française, c'est aussi l'espoir d'Emmanuel Macron et du gouvernement qui compte sur ces deux jours pour recevoir de nouvelles promesses. Les Émirats ont d'ores et déjà assuré un investissement de 30 à 50 milliards d'euros pour construire un centre de données géant en France.
Alexis Bédu. Et si les annonces s'enchaînent, certains disent aussi leurs craintes. Le musicien français Jean-Michel Jarre accuse la plateforme Spotify de vouloir se passer des artistes en cherchant à diluer leurs chansons avec des morceaux réalisés par l'IA. Le rêve de Spotify, ce serait de se passer des artistes. Spotify, c'est un peu le Dark Vador de la musique, a dénoncé le compositeur. Thunder, tonnerre, un nom qui frappe pour une opération de police d'envergure menée contre le trafic d'espèces sauvages. De fait, c'est la plus grande opération de ce type jamais organisée dont on parle, jugée plus tôt. Plus de 20 000 animaux vivants saisis, 365 suspects arrêtés. Interpol et l'Organisation mondiale des douanes y ont participé avec le concours de la CITES, la Convention internationale contre le commerce des espèces protégées. Et c'est un coup sévère porté au trafic international de ces espèces qui génère 20 milliards de dollars par an. Simon Rosé.
C'est l'un des plus gros coups de filet de l'histoire de la lutte contre le trafic d'espèces protégées. L'opération Tonnerre, menée en fin d'année dernière, a mobilisé des enquêteurs du monde entier dans 138 pays. Le bilan est impressionnant. 6 réseaux criminels internationaux identifiés, une centaine d'entreprises impliquées, 365 arrestations. Tout cela a mené à des saisies, plus de 2000 dans le monde entier, de quoi mettre la main sur 12 000 oiseaux, 6 000 tortues, près de 2000 reptiles, mais également des primates, des tigres et des pangolins. Retrouvés vivants, ils pourront être rapatriés dans leur pays d'origine. De l'ivoire, des cornes de rhinocéros, des ailerons de requins très valorisés sur le marché noir ont également été saisis. Mais dans les espèces menacées, il n'y a pas que des animaux, il y a du bois également, des plantes. Plusieurs tonnes ont été retrouvées par les enquêteurs, ainsi que des armes à feu et du matériel de braconnage. Des preuves, s'il en fallait, que le trafic d'espèces sauvages est une activité criminelle qui constitue une part importante des revenus de réseaux internationaux.
Simon Rosé. 13 personnes seront jugées à Paris le 4 juin pour injures racistes visant la chanteuse Aya Nakamura. Injures proférées alors qu'avait été annoncée sa possible participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La franco-malienne avait alors porté plainte. Aya Nakamura, la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, est sacrée artiste féminine aux Victoires de la Musique 2024.